Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir. L'intransigeance du président Erdogan à la une ce soir. Le chef de l'État turc refuse de respecter les critères de Bruxelles pour obtenir l'exemption des visas négociés en contrepartie de l'accord sur les migrants. Nous serons en direct à Istanbul avec Anne Andlauer au début de ce journal, puis nous partirons en Allemagne où l'entourage de la chancelière Merkel s'inquiète des engagements de la Turquie. À Rome, les dirigeants de l'Union européenne sont venus chercher un peu de réconfort auprès du pape François. Il a reçu ce midi le prix Charlemagne et veut insuffler, je cite, un nouvel humanisme européen. Mathilde Imberti va nous l'expliquer. Nous serons également à Londres où la victoire de Sadiq Khan ne fait plus aucun doute. Mais attention, elle ne symbolise pas la renaissance du parti travailliste à la peine dans ces élections locales, nous dira Franck Madvon. En France, contrairement aux annonces de début de semaine, Manuel Valls laisse planer la menace d'un recours au 49-3 pour faire passer la loi travail. Précision à suivre de Cécile Aspe. Et puis nous nous arrêterons sur l'atlas de la France toxique dévoilé par l'association Robin des Bois. Mélanie Chalandon, qu'avez-vous au sommaire du grain à moudre?
Eh bien, puisqu'une grande partie de la France est déjà sur la route, pour profiter du pont, nous parlerons de sécurité routière vers un risque zéro sur la route. Nous en débattrons avec nos invités Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, Christophe Ramon, directeur des études et de recherche de l'association Prévention routière, le sociologue Mathieu Grosstête et France Wolf, membre du bureau national de la Fédération française des motards en colère.
Merci Mélanie, et à tout à l'heure, 18h20. Au lendemain de la mise à l'écart de son premier ministre Davutoğlu, le président turc Recep Tayyip Erdogan cherche à consolider son pouvoir. Il s'est exprimé ce midi à Istanbul, discours en public dans lequel il appelle son pays à réformer au plus vite la constitution pour passer d'un régime parlementaire à un système présidentiel. Recep Tayyip Erdogan est également revenu sur l'exemption de visa promise par l'Union européenne en contrepartie de l'accord sur le renvoi des migrants depuis la Grèce. Bonsoir Anne Andlauer.
Bonsoir.
Vous êtes en direct à Istanbul. Le président turc refuse désormais de respecter certains critères fixés par Bruxelles pour supprimer les visas.
En effet, autant la Commission européenne s'était montrée plutôt conciliante en exhortant Ankara à remplir au plus vite les quelques critères restants pour lever les visas, autant Recep Tayyip Erdogan, lui, s'est montré intransigeant. Parmi les 5 critères que la Turquie doit encore satisfaire d'ici juin, le plus sensible concerne les lois antiterroristes. Bruxelles réclame leur assouplissement autant dans leurs lettres que dans leur application. Alors certes, dans un contexte de guerre contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, cette réforme s'annonçait déjà difficile. Et ces dernières semaines, le président turc avait d'ailleurs réclamé un durcissement plutôt qu'un assouplissement des lois antiterroristes. Il voudrait notamment qu'elles permettent de punir avec la même sévérité ceux qu'il appelle les partisans ou les complices des terroristes, c'est-à-dire souvent des intellectuels, des journalistes ou des opposants politiques. Mais avec ce discours, Tayyip Erdogan vient de lever toute ambiguïté. Quoi qu'en dise la Commission, la Turquie ne touchera pas à une virgule de sa législation. Le président a même été plus loin, mettant en garde l'Europe si elle venait à insister. Dans ce cas, il dit « nous irons de notre côté et vous du vôtre ». Des propos qui n'engagent pas à l'optimisme pour l'avenir de l'accord sur les réfugiés signé entre l'UE et la Turquie en mars. Tayyip Erdogan n'a cessé de répéter que sans la levée des visas, son pays refuserait d'appliquer cet accord.
Merci Anne Andlauer, vous étiez en direct d'Istanbul pour France Culture. Cette intransigeance du président turc et le départ précipité de son premier ministre Davutoğlu qui avait négocié l'accord controversé du 18 mars sur le renvoi des migrants en Turquie inquiète beaucoup en Allemagne. La chancelière Merkel compte en effet sur la Turquie pour respecter cet accord qu'elle a elle-même beaucoup poussé. À Berlin, la correspondance de Nathalie Versieux.
Angela Merkel avait rencontré Ahmet Davutoğlu à plusieurs reprises ces derniers mois. Autant ses relations semblaient tendues avec Erdogan, autant elles semblaient bien communiquées avec le Premier ministre turc. Nous partons du principe que cette bonne coopération se poursuivra avec le nouveau Premier ministre, a souligné ce matin le porte-parole du gouvernement fédéral. De fait, le départ du modéré Davutoğlu est un coup dur pour Angela Merkel. Pour toutes les questions importantes pour l'Europe, Davutoğlu voulait rapprocher la Turquie de l'Europe. Erdogan, très clairement, ne veut pas de ça, estime Norbert Röttgen, membre influent de la CDU de la chancelière. Le départ d'un premier ministre turc proche de l'Allemagne survient alors que la chancelière a le plus grand mal à convaincre ses alliés bavarois du bien fondé de la suppression des visas pour les Turcs désireux de se rendre en Europe.
Et toujours concernant la Turquie, le journaliste Can Dündar, rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet, a échappé à une attaque armée cet après-midi devant le tribunal. tribunal où il est jugé à Istanbul pour divulgation de secrets d'État. 3 coups successifs ont été tirés. Il n'a pas été blessé, mais il semble qu'un autre journaliste qui couvrait le procès ait été touché. À Rome, c'est une autre robe qui s'est affichée cet après-midi, celle du pape François qui vient de recevoir le prix Charlemagne, un prix décerné tous les ans pour des travaux réalisés en faveur de l'unification européenne. Le pape le reçoit pour son implication dans la crise des migrants. Dans son discours cet après-midi, François a appelé les dirigeants européens à ne pas considérer les migrants comme des délinquants. À Rome, les précisions de Mathilde Imberti.
Le pape François, devant un parterre de personnalités européennes, président de la Commission, du Parlement, du Conseil européen, évoque une Europe fatiguée et vieille, stérile, sans vitalité. L'impression que donne l'Europe d'aujourd'hui, dit-il. Mais il vient aussi apporter des paroles d'encouragement, demandant aux dirigeants du vieux continent de puiser dans l'héritage des pères fondateurs pour aller de l'avant.
I progetti dei padri fondatori non sono superati.
Les projets des pères fondateurs ne sont pas dépassés. Ils inspirent, aujourd'hui plus que jamais, à construire des ponts et à abattre des murs. Je rêve d'un nouvel humanisme européen. Je rêve d'une Europe qui prend soin de l'enfant, qui secourt comme un frère le pauvre et celui qui arrive en recherche d'accueil parce qu'il n'a plus rien et demande un refuge. Je rêve d'une Europe où être migrant ne soit pas un délit, mais plutôt une invitation à un plus grand engagement dans la dignité de l'être humain tout entier.
Sans surprise, le pape appelle l'Europe à accueillir les migrants qui en ont besoin. Il appelle aussi à changer de système économique. Il fustige, selon l'une de ses formules de prédilection, la culture du déchet. Un système qui crée de l'exclusion, qui crée aussi des dommages à l'environnement, à notre maison commune.
Les principaux dirigeants européens auront eu, avec ce prix Charlemagne, un peu de répit et de soutien moral avant de retrouver dès lundi de nouveaux dossiers de crispation. L'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, se retrouve lundi pour évaluer les réformes grecques. La Grèce qui est en grève générale jusqu'à demain soir contre 2 nouveaux projets de loi sur la réforme des retraites et la fiscalité. Le Royaume-Uni commence à voir à quoi ressemble son nouveau paysage politique après le vote d'hier dans les parlements régionaux et dans 124 municipalités. Les résultats partiels ne concernent pas encore la ville de Londres où le travailliste Sadiq Khan est donné gagnant. Il n'y a même quasiment plus aucun doute. À cette exception près, le Labour de Jeremy Corbyn, pour son premier test électoral, perd du terrain. Franck Madvon.
La victoire désormais presque certaine de Sadiq Khan à Londres, dont il va devenir le premier maire musulman, permet aux travaillistes de sauver les apparences, mais Jeremy Corbyn n'aura pas passé sans encombre son premier test électoral en tant que leader du Labour. En Écosse, son parti termine troisième, derrière les indépendantistes, toujours majoritaires, et surtout derrière les conservateurs. Il a pourtant été longtemps la principale force politique de la province, c'est donc une lourde défaite, mais Jeremy Corbyn retient le fait que le Labour a limité la casse au Pays de Galles et surtout en Angleterre où il perd une vingtaine de sièges, moins que les prédictions. On s'est accroché, a-t-il commenté, et on a augmenté notre soutien dans beaucoup d'endroits. Voici le message du Labour, que l'économie peut et sera pilotée d'une manière très différente, qui marche pour tous, pas seulement pour une poignée, comme sous les Tories. Ce message positif, beaucoup de responsables travaillistes n'y croient pas. Ils estiment que Jeremy Corbyn détruit le parti en mettant la barre à gauche toute, qu'il offre un boulevard aux conservateurs, qui signe par ailleurs une performance honorable. Mais le bilan du Labour aujourd'hui n'est pas désastreux et de toute façon, son leader conserve le soutien des militants.
La correspondance à Londres de Franck Madvon. Au Proche-Orient, le Hamas n'appelle pas à la guerre avec Israël dans la bande de Gaza, a promis son chef Ismaïl Haniyeh ce matin. Selon lui, une médiation internationale serait en cours pour désamorcer les tensions de ces deux derniers jours. Un nouveau raid de l'aviation israélienne contre des sites du mouvement de résistance islamique a eu lieu ce matin dans cette bande de Gaza. L'armée dit avoir répondu à de nouveaux tirs de mortier qui ciblent les militaires israéliens à la frontière. Étienne Monin, vous êtes rendu justement dans un kibboutz à la frontière avec la bande de Gaza.
Vivre dans le kibboutz de Soufa, c'est faire avec le risque de guerre. Le village est à 3 km de la frontière. Il a reçu 30 obus de mortier pendant les combats de 2014. Alors cet accrochage ne modifie pas le quotidien, même s'il influence les esprits, dit Eyal Brandeis, universitaire.
On est un peu tendu parce qu'on sait que la moindre petite erreur peut conduire à l'escalade, et ça, pour l'instant, personne n'en veut.
À côté du kibboutz, sur la base militaire, le nombre de tanks a été sensiblement renforcé depuis le début de semaine. L'armée dit qu'elle entend poursuivre ses recherches de tunnels. Deux ont été découverts à proximité ces dernières semaines, ce qui satisfait les habitants du kibboutz, pour l'instant tenus à l'écart de la confrontation.
On a été et on sera à nouveau des cibles du Hamas quand il pensera que c'est le bon moment pour lui. Pour l'instant, on n'est pas visé, mais ça peut changer vraiment en un clin d'œil. Je crois qu'il y a cette escalade parce que le Hamas veut empêcher l'armée de trouver des tunnels. Et ces tunnels, le Hamas compte les utiliser en période de guerre contre les civils.
L'inquiétude autour des tunnels du Hamas a été renforcée par la guerre de 2014. Les recherches se sont intensifiées assez récemment sous la pression de certains habitants qui ont réclamé plus d'investissement de la part du gouvernement.
Un reportage d'Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. L'armée syrienne nie toujours ce soir avoir bombardé le camp de fortune de la province d'Idlib, bombardement qui a tué au moins 28 civils et fait une cinquantaine de blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme n'y croit pas et parle de crimes de guerre. Il appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à saisir la Cour pénale internationale. La France réclame également une enquête impartiale et indépendante. En Irak, Tikrit, dans la région de Salah-Eddine, a été reprise à l'État islamique il y a tout juste un an. La reprise par les forces du pays de l'ancien fief de Saddam Hussein avait été un symbole fort de la lutte contre l'organisation djihadiste. Un an après, la vie a repris, la ville a des allures de presque normalité. Restent néanmoins d'énormes défis à relever, comme la reconstruction et le vivre ensemble. C'est notre dossier de la rédaction ce soir et il est signé Angélique Ferrat.
Le souvenir du massacre de Spike plane sur cette ville. Cet événement a été rebaptisé le massacre de Tikrit. En juin 2014, plus de 1000 jeunes recrues de l'armée ont été kidnappées et tuées par l'État islamique et certains locaux. Les autorités irakiennes ont depuis arrêté 400 personnes, 60 ont été condamnées à mort. Mais personne ne veut parler de Spike. Parlons de l'avenir, me dit un passant. 400 maisons et bâtiments ne sont plus habitables à Tikrit, mais la ville a été globalement peu détruite. En un an, les rues ont été réasphaltées, les magasins ont rouvert, l'électricité fonctionne à nouveau, l'eau est disponible partout, le souk est ouvert. Le marchand de légumes et son employé sont à moitié satisfaits.
La vie est ok, mais ce n'est pas génial. Par exemple, oui, on a de l'électricité, mais le gouvernement distribue seulement 10 ampères par maison. C'est juste assez pour un réfrigérateur et le ventilateur. Nous apportons tout de Turquie ou d'ailleurs. Il n'y a plus de production locale. Après 15 jours, on va commencer à recevoir des fruits de Samara, à 50 km.
Le marchand de chaussures, lui, est assis dans un souk quasi vide, mais il garde le sourire.
Tout va bien, la route est rouverte. On peut aller à Bagdad quand on veut. Les gens sont rentrés. Je dirais que 60% de la population est rentrée. Il y a des gens bloqués dans des villes tenues par Daesh. Et les quelques-uns qui ont collaboré avec Daesh ne sont pas revenus. Regardez par exemple, il y a dans ce marché quelques magasins fermés. Ce sont des familles qui étaient là quand Daesh contrôlait la ville. Elles ne sont pas rentrées.
D'autres tribus locales se sont rebellées contre le gouvernement en 2014, laissant entrer l'organisation de l'État islamique, les Al-Bouajil et Al-Bounasser. Un accord entre les autorités irakiennes et ces deux tribus a été trouvé, nous dit le responsable sécurité pour la région de Salah-Eddine. Cela leur a permis de revenir vivre à Tikrit dans sa région. Mais la tribu des Al-Bounasser est toujours au Kurdistan. Trois villages sont vides, totalement vides, dont Al-Oja, le village de Saddam Hussein. 15 000 personnes sont concernées. La tribu assure également que des maisons ont été détruites par simple vengeance. Cher Fala Hassan El-Nede, de la tribu des Al-Bounasser, joint par téléphone.
Le gouvernement nous a dit clairement, nous ne pouvons assurer votre sécurité. Vous ne serez pas en sécurité si vous rentrez maintenant. Il y a beaucoup de milices chiites à Tikrit. Pour moi, il est impossible de rentrer tant qu'il y aura des milices. Ce n'est pas juste moi et ma tribu. Il y a d'autres tribus concernées. Dans Tikrit, seulement la moitié des gens sont rentrés. Les autres ont peur d'être kidnappés ou pire.
Aujourd'hui, la sécurité se dégrade à Tikrit. Les enlèvements se multiplient. Ce sont des enlèvements pour l'argent, nous dit-on. Parmi la population, certains accusent tout de même les milices chiites de perpétrer ces enlèvements tout simplement parce que les hommes n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Le gouvernement irakien est en effet en quasi-faillite.
Le dossier de la rédaction a été signé Angélique Ferrat. C'est un congrès qualifié d'historique, celui du Parti des travailleurs nord-coréens, convoqué pour la première fois depuis 36 ans. Pendant 4 à 5 jours, des délégués venus de tout le pays vont assister à une réunion très codifiée dont le but est d'asseoir l'autorité de Kim Jong-un, le numéro 1 du pays. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 4 ans, la Corée du Nord a mené 2 essais nucléaires et 2 tirs réussis de fusées, des tirs considérés par la communauté internationale comme des essais déguisés de missiles balistiques. Manuel Valls maintient le doute sur les intentions du gouvernement en cas d'échec de la loi travail au Parlement. Le Premier ministre avait pourtant assuré en début de semaine ne pas privilégier le recours au 49-3 et donc le passage en force sans vote. Bonsoir Cécile Asp.
Bonsoir.
Changement de ligne visiblement du Premier ministre dans une émission diffusée ce soir sur Public Sénat. Il dit cette fois-ci qu'il ne faut jamais renoncer à un moyen constitutionnel.
Nous verrons la semaine prochaine, mais ce texte doit passer, dit Manuel Valls. Il est vrai que le risque est important pour le gouvernement. Ce projet de loi n'aura pas forcément la majorité à l'Assemblée. Le rapporteur du texte, Christophe Sirug, parlait en début de semaine d'un déficit de 40 voix. Les traditionnels frondeurs, mais aussi une vingtaine de députés socialistes, d'habitude plutôt attentifs aux consignes du gouvernement, et qui se révèlent cette fois très critiques. Or, le groupe PS n'a pas à lui seul la majorité absolue à l'Assemblée. Il peut certes compter sur des voix de radicaux de gauche et d'écologistes pro-gouvernement, mais les Verts, les élus du Front de gauche, les Républicains et les centristes voteront contre la dernière grande réforme du quinquennat. D'où un risque non négligeable que ce projet de loi ne soit pas adopté. Et puis d'autre part, ce débat, prévu pour être court, 4 jours seulement la semaine prochaine, risque de s'enliser avec plus de 5000 amendements à examiner. Décidément, il commence à ressembler furieusement à celui de la loi Macron qui avait contraint le gouvernement à dégainer le 49-3. Pourtant, Manuel Valls n'était pas favorable, vous le disiez, au vote bloqué. À un an de la présidentielle, ça fait mauvais effet. Mais tout plutôt qu'un vote négatif, surtout avec une mobilisation qui continue dans la rue. Jeudi prochain, en effet, lors du dernier jour de débat à l'Assemblée, les syndicats, CGT, FO, FSU, Solidaires et puis étudiants, lycéens, UNEF, FIDEL et UNEL, appellent à nouveau à descendre dans la rue pour dire non à la loi travail. Le gouvernement ne peut pas se battre sur tous les fronts. S'il ne parvient pas à convaincre sa majorité de voter son texte, il devra à nouveau employer le 49-3.
Les précisions de Cécile Asp. François Hollande va attaquer de son côté la dernière année de son quinquennat. Cela fait 4 ans aujourd'hui qu'il est à l'Élysée. Date anniversaire brocardée depuis ce matin par les candidats à la primaire de la droite. Et puis en ce moment même, les jeunes républicains issus du mouvement Nous les Jeunes qui soutiennent Nicolas Sarkozy déposent une gerbe au Bourget. Ils dénoncent les promesses non tenues du candidat qui avait prononcé dans la ville de Seine-Saint-Denis le discours fondateur de sa campagne présidentielle. Le BHV va bien devenir le premier grand magasin parisien à ouvrir le dimanche. Ce sera effectif d'ici au 1er juillet. Un accord a été signé dans la semaine par 2 des 4 syndicats représentatifs, la CFE-CGC et Sud. La CFTC vient de renoncer à faire jouer son droit d'opposition. Le dernier syndicat, la CGT, ne peut plus s'opposer seul au texte de la direction. C'est un livre pédagogique et sans détour sur l'état écologique de notre pays. L'association de protection de l'environnement Robin des Bois publie un atlas de la France toxique aux éditions Artaud. Véronique Rebérode, vous l'avez entre les mains ce livre. Des pesticides à la pollution de l'air en passant par les PCB. Il y a 36 cartes. Que faut-il retenir en particulier?
Mais qu'il n'y a plus de niche écologique en France. Superposées les unes sur les autres, les 36 cartes de la France toxique donnent la mesure de l'ampleur de dégâts. Plus aucune niche, donc ni en ville ni à la campagne, impossible d'échapper à la contamination et la diffusion des polluants sur terre comme sur mer. Il y a ce que l'on sait déjà, l'omniprésence même des pesticides dans la campagne française, avec les conséquences sur l'environnement et sur notre santé. Ça ne va pas s'arranger, le secteur agricole en consomme de plus en plus. On comprend aussi que la plupart des pollutions sont tenaces. L'amiante, interdite tardivement en France, alors que déclarée cancérigène partout dans le monde depuis des années, envahit les écoles, les usines, les hôpitaux. La France est loin d'en être libérée. 20 millions de tonnes de produits amiantés sont encore sur place, sur le territoire national. Selon l'atlas de la France toxique, l'amiante tuera encore entre 100 000 et 200 200 000 personnes en France dans les 40 prochaines années. L'ouvrage évoque aussi ces pollutions lointaines, anciennes, oubliées, comme les tonnes de munitions tirées lors des deux dernières guerres mondiales, surtout des munitions non explosées qui dorment dans nos villes et nos campagnes avec des produits chimiques utilisés comme propulseurs et comme explosifs. Ils se répandent dans les sols, les sous-sols, les nappes phréatiques, sur les côtes françaises. Aussi, des millions d'armes chimiques et conventionnelles ont été immergées dans l'océan après les guerres. Elles n'ont pas fini de contaminer la faune et la flore des fonds marins, comme les boues rouges de la Méditerranée ou les marées noires, etc. Tout cela donne un peu la nausée. Robin Desbois, qui est donc à l'origine de cet atlas, souhaite surtout informer pour inciter les citoyens que nous sommes à interpeller nos responsables. Il y a de quoi interpeller.
Merci Véronique Rebérotte pour cet aperçu de cet atlas de la France toxique publié aux éditions Artaud. La météo de votre samedi, la plus grande partie du pays profitera d'une journée ensoleillée, de la Bretagne et du Cotentin à l'Aquitaine. Le ciel restera néanmoins menaçant avec un risque d'ondées localement orageuses. Les températures iront de 7 à 14 degrés le matin. L'après-midi, il fera 20 à 25 sur la plupart des régions, localement 17 à 19 en Bretagne et en Languedoc-Roussillon.